Quand on néglige sa jeunesse, c'est dans le fond qu'on tombe en dépression et qu'on est incapable de préparer son avenir.
Ça ne veut plus rien dire, Lucien. C'est des merdeux, des cons.
Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Bonjour à toutes et à tous. Ce 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir d'avoir Frédéric Crofine. Bonjour Frédéric.
Bonjour à tous.
Vous êtes responsable du service social du Crous Normandie. Et en effet, cette thématique, vous y prenez part au sein du Crous Normandie. Première question tout d'abord, dans le cadre en effet de la journée contre les violences faites aux femmes, comment les assistantes sociales du Crous peuvent-elles intervenir auprès des étudiantes victimes de violences ?
Les assistantes sociales du Crous ont en charge l'accompagnement des étudiants et dans le cadre, donc sur tous les sites principaux de la région, et dans le cadre de cet accompagnement, par des entretiens téléphoniques, des signalements de nos collègues, elles sont amenées effectivement à pouvoir aborder ces questions de violence faites aux femmes et des difficultés rencontrées par certaines d'entre elles.
Concrètement, quel type de violences sont le plus souvent signalées par les étudiantes ici en Normandie ?
On va retrouver effectivement les violences intrafamiliales classiques, donc ça peut être effectivement tout ce qui va être phénomène de violence dans les familles, avec les parents, avec les frères et sœurs, des violences aussi dans les relations de couple ou des comportements inappropriés. Et puis, on va retrouver aussi tout le phénomène de violence de rue, toutes les menaces, toutes les difficultés que les étudiantes peuvent rencontrer lorsqu'elles sortent ou lorsqu'elles vont fréquenter des activités de loisirs.
Alors, en effet, on parle de signalement. Il y a ensuite la phase d'accompagnement. Comment accompagnez-vous une étudiante qui se confie sur une situation de violence ?
La première démarche va être avant tout d'établir avec elle un climat de confiance qui va lui permettre de pouvoir libérer la parole et aussi de recueillir tous les éléments concernant sa situation. On peut aussi s'adresser à des témoins qui parfois sont démunis face à la situation que vivent éventuellement leur ami ou un membre de la famille. En fonction de la nature et de la gravité de la situation, nous pouvons mettre en place, avec l'accord de l'étudiante bien entendu, un accompagnement qui vise à faire cesser les comportements adaptés ou les faits de violence. Cet accompagnement peut revêtir plusieurs formes. On peut aller, bien entendu, d'une mise à l'abri physique avec un hébergement en urgence dans un centre d'hébergement. Mais souvent, nous travaillons avec nos collègues et les structures d'hébergement au sein du Crous. Ça peut être aussi une orientation vers un professionnel de santé ou un service de santé. Un accompagnement physique aux urgences ou au commissariat pour un dépôt de plainte ou une main courante.
Le Crous propose-t-il des actions de sensibilisation ou des dispositifs spécifiques pour prévenir et lutter contre les violences faites aux femmes ?
Oui, tout à fait. Le Crous est mobilisé par rapport aux questions de violences faites aux femmes, le service social également. Donc nous menons depuis 2020, puisque c'est la date à laquelle a été nommée au sein de notre établissement deux référentes égalité et de lutte contre les violences faites aux femmes, nous menons des actions de prévention et de sensibilisation auprès des étudiants, mais également auprès du personnel qui accompagne ces étudiants. En collaboration avec plusieurs services internes, donc le service de communication, les assistants de prévention, les ressources humaines, services culture et vie de campus, nous menons des actions de sensibilisation, de formation, et nous créons régulièrement des supports de communication lors des journées un petit peu spécifiques, comme le 25 novembre ou bien la journée du 8 mars. Des supports de communication qui sont destinés aux étudiants et qui vont avoir cette fonction d'information et de sensibilisation. Par exemple, cette année, avec le service communication, nous avons repris donc sur une carte de visite, le violentomètre qui a été créé par l'association Hubertine, qui est en fait une règle graduée qui permet de mesurer l'état et la nature des relations que l'on partage avec un autre. La première partie étant effectivement ce qui correspond à une situation normale et une situation de consentement, jusqu'à la partie rouge qui va être là une situation de violence et qui doit sensibiliser les femmes, mais aussi les hommes, hein, à une relation qui peut être destructrice et en tous les cas qui peut poser problème.
Et un dernier point, puisqu'évidemment le Crous Normandie n'est pas la seule structure à être sensible à cette question justement de la violence faite aux femmes. Quels partenaires ou structures mobilisez-vous à cette occasion et dans ce type de situation, que ce soit en termes associatifs, d'hébergement, mais aussi de cellules d'écoute?
Dans un premier lieu, nous avons notre outil interne qui est la cellule d'écoute et d'accompagnement du CROUS, la CETAC, qui est un dispositif qui est mis en place depuis le 25 novembre 2023 et qui recueille le témoignage des victimes ou des témoins et qui les accompagne en fait dans le cadre des VSS, donc des violences sexistes et sexuelles, des discriminations et de harcèlement. Nous avons un contact téléphonique et une adresse mail. Nous travaillons également aussi en interne avec un psychologue qui fait des vacations au niveau du CROUS. Et puis, bien entendu, nous utilisons les associations, les dispositifs qui sont mis à disposition et qui se sont énormément développés depuis la période un petit peu de sensibilisation nationale, le MeToo, et qui permettent aussi d'offrir des accompagnements spécialisés. Je pense notamment au numéro 3919, qui est un site qui est interactif et assez intéressant. D'autres aussi associations, et puis nous appuyons sur le travail des autres cellules d'écoute et d'accompagnement, comme les cellules de l'université, des établissements scolaires.
Merci en tout cas à Frédéric Roffin, responsable du service social du CROUS Normandie, de nous avoir parlé des actions du CROUS, évidemment, lors de cette journée du 25 novembre, je le rappelle, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Merci beaucoup Frédéric.
Merci à vous.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. Syllab,
la radio sauvage.
Samedi dernier, des manifestations étaient organisées après l'appel de 63 collectifs féministes et ont eu lieu dans toute la France. À Paris, Lille ou Rennes, où le cortège est parti vers 15h de la place Charles de Gaulle. À l'initiative de l'Interorga féministe rennaise, 5000 personnes ont répondu à l'appel afin de scander dans les rues de Rennes leurs revendications face à la violence que subissent les femmes et les personnes minorisées de genre. À travers ces rassemblements, l'objectif pour les collectifs était de pouvoir revendiquer une loi intégrale contre les violences sexuelles.
Pas tous les hommes, mais toujours des hommes. Pas tous les hommes, mais n'importe quel homme. Pas tous les hommes, mais beaucoup d'hommes. Peut-être un peu tous les hommes, en fait. De nos pères à nos ministres, en passant par nos idoles ou nos patrons, les violences n'ont ni origine sociale, ni couleur de peau, ni nationalité, ni religion.
Je suis avec Louise et Anouk, qui font partie de nous toutes et qui tiennent un stand pour la manifestation. Du coup, ma question, c'est pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui ?
Bah, pour manifester contre les violences sexistes et sexuelles et aussi pour montrer qu'on fait front face à l'extrême droite, parce qu'en ce moment on voit une montée d'extrême droite partout dans le monde, aux États-Unis récemment mais aussi en France, et vraiment on est là pour militer pour la libre disposition de nos corps et la liberté pour tous, la liberté de choisir en fait ce qu'on fait de nos corps, avoir des enfants ou pas, transitionner ou pas, etc. C'est un peu un incontournable pour moi, les manifs féministes. C'est pour ça aussi que je suis devenue militante. C'est une cause qui me touche particulièrement. Enfin, moi, en tout cas, ça me tord les boyaux quand je vois les actualités, par exemple, du procès Pellico, ce genre de choses. Et du coup, c'était important de m'investir. Et les manifestations, c'est le premier pied pour moi dans le militantisme, en fait. C'est pour montrer que je suis là et que je suis pas d'accord et que je vais pas me laisser faire, quoi. Voilà.
Oui, je m'appelle Clarisse. Et je fais partie de la Confédération Paysanne, enfin du groupe Jeunes plus précisément. Je suis là avec mon syndicat parce que les violences sexistes et sexuelles, ça concerne aussi le milieu agricole, notamment parce que y a beaucoup de personnes qui sont installées donc, dans des fermes en couple. Et en même temps, la vie à la campagne, ça peut aussi isoler des femmes. Et dans des situations de violence conjugale, c'est parfois difficile de trouver du soutien et notre syndicat, il prend ce sujet hyper au sérieux, comme toutes les questions d'égalité et de lutte contre les oppressions.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Nous marchons sur des œufs de caille que nous écrasons, mais quand même nous marchons. Nous marchons sur le sol mouillé, nos pieds sont cassés, nous marchons. Nous marchons tout droit vers n'importe où et contre tout, nous marchons. Nous marchons, on ne mange rien, on n'a pas faim, nous marchons. Nous marchons, ça fait un peu mal, c'est normal, nous marchons. Nous marchons, c'est hyper dur, mais nous sommes sûrs, alors nous marchons. Nous marchons, nous sommes les plus forts, nous sommes les plus fragiles, nous marchons. Nous marchons, ça ne sert à rien, ça change tout, nous marchons. Marchons, ça ne sert à rien, ça change tout, nous marchons. Nous marchons, ça ne sert à rien, ça change tout, nous marchons.
Pulsar.
Pulsar.
Radio curieuse et citoyenne.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet souvent invisible, celui de l'emprise financière. Quand on pense aux violences conjugales, on imagine les coups, les cris. Mais il y a une autre violence qui, elle, est souvent silencieuse, qui s'immisce dans chaque aspect de la vie. Ce sont les violences économiques. Maigline Rosset, avocate spécialisée en droit de la famille, affirme que 80% des dossiers comportant des violences conjugales qu'elle traite comportent des violences économiques. J'appelais ma vie la prison dorée, parce que je ne pouvais décider de rien. On ne faisait que ce que lui voulait. Il avait une phrase récurrente, c'est celui qui paye qui décide. Témoigne Isabelle dans le HuffPost en parlant des violences économiques dont elle a été victime. Quand on parle d'emprise, on parle de contrôle coercitif. C'est une forme de violence où l'agresseur enferme sa victime dans une cage invisible. Mais qu'est-ce qui constitue les barreaux de cette cage? Il y a tout d'abord les dénigrements. Tu es folle, tu es incapable. Accompagnés par des micro-régulations du quotidien des femmes, vérifier les tickets de caisse, interdire certains achats, contrôler chaque centime, mais surtout des délits comme du vol d'argent, des détournements de salaire, interdire l'accès à un compte bancaire, voire même parfois le retrait de la carte vitale, privant ainsi la femme de soins médicaux essentiels. Vous pouvez vous dire, mais pourquoi ces femmes restent-elles? Les raisons sont nombreuses, mais l'une d'elles réside dans le coût élevé du départ. Partir coûte cher. Se reconstruire demande des ressources, du temps, un logement, un avocat, des frais d'urgence, et tout ça a un prix. Heureusement, des solutions commencent à voir le jour. En février dernier, la France a adopté une loi qui crée une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales. Cette aide, sous forme de prêt sans intérêt, pourra être versée en 3 jours après une plainte ou une ordonnance de protection. Et pourtant, est-ce suffisant? Non, je ne pense pas. Parce que les victimes ressentent toujours et souvent un terrible sentiment d'injustice. L'impression que les agresseurs s'en sortent mieux qu'elles. Mais je garde espoir. Je garde espoir en voyant toutes ces associations réunies sur la place Le Petit et qui luttent pour accompagner ces femmes. Alors aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à ces violences qu'on ne voit pas, à cette entreprise qui prive des milliers de femmes de leur liberté, de leur autonomie. Parce que ce n'est qu'en mettant en lumière ces pratiques que nous pourrons vraiment les combattre. Et pour finir, j'aimerais faire un message aux femmes qui nous écoutent. Vous n'êtes pas seules. Ensemble, faisons en sorte que plus aucune cage, même invisible, ne puisse enfermer une autre femme.
Univox.
Radio Campus Paris.
Marie, vous êtes membre active du collectif Nous Toutes, qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Vous les avez sûrement aperçues et entendues ce week-end. Vous êtes d'ailleurs très connue pour vos pancartes violettes, avec des messages très poignants. Ras le viol, je te crois, tu n'y es pour rien. Un enfant, c'est un choix, un IVG, c'est un droit. Vous avez aidé activement à l'organisation de cette manifestation le 23 novembre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Milo, vous êtes militante de l'AG Féministe Paris-Banlieue. Votre objectif principal est d'organiser et de coordonner les actions en vue de la grève féministe et mobiliser la région. Parmi les actions prévues, vous travaillez notamment sur la préparation de la marche radicale du 7 mars, un événement marquant dans la lutte des droits des femmes. Votre association était aussi présente lors de la manifestation samedi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Marie, Milo, le collectif Némésis, un groupe d'action d'extrême droite identitaire, se réclamant également féministe, mais surtout profondément xénophobe, raciste, anti-islam, anti-immigration, est opposé à la transidentité, s'est fait remarquer pendant la manifestation. Comment vous incluez dans vos combats la montée de l'extrême droite, et surtout quand elle vient directement sur votre temps d'attaque? Qui veut commencer?
Vas-y, ouais. Milo, si tu veux.
Du coup, nous, à l'AG Féministe Paris-Banlieue, là, en fait, on fait partie aussi d'un réseau d'organisations féministes qui s'appelle la Coordination Nationale Féministe. Donc, c'est des associations, organisations et collectifs de toute la France qui s'organisent. Et on se réunit chaque année dans des rencontres nationales d'été. Et cet été, c'était pile pendant les élections législatives. Et du coup, on a acté, à la fin de ces trois jours de rencontres, on a acté que, en fait, notre combat féministe cette année, c'était contre l'extrême droite. Mais contre un extrême droite qui défend, enfin une gauche qui défend le droit des trans, le droit des personnes musulmanes et le droit des travailleurs du sexe. Et enfin, c'est vraiment là-dessus qu'on sent que cette année, donc notamment cette année dans la manifestation de Nous Toutes, on avait un grand cortège contre l'extrême droite avec comme mot d'ordre violence sexiste, violence fasciste, même combat féministe.
Marie.
Nous on est raccord avec cette stratégie-là. Enfin, je pense que cette année, on a bien vu que l'extrême droite est aux portes du pouvoir, voire avec la porte bien enfoncée. Donc, notre stratégie aussi 2024 chez Nous Toutes, c'était vraiment de lutter contre l'extrême droite et contre les mouvements fémonationalistes, donc dont fait partie Némésis. Donc, le fémonationalisme, c'est un concept qui a été développé par une chercheuse qui s'appelle Sarah Erfaris. Et en fait, c'est l'instrumentalisation des luttes, notamment féministes, mais sociales en général, à des fins racistes, xénophobes, pour servir un discours réactionnaire et identitaire. Et Némésis se rattache complètement à ça. On se doutait qu'elle serait là à la manifestation de samedi, parce qu'elles sont toujours là. D'habitude, elles rentrent dans nos cortèges avec des pancartes, avec des messages complètement rien à voir, et on arrive à les exfiltrer facilement. On s'attendait à ça, et par contre, ce à quoi on s'attendait pas cette année, c'est qu'elles avaient un vrai cortège et qu'elles ont pu défiler sous protection de la police. Parce que nous, on avait bien dit, quand on a co-déclaré la manifestation, qu'on ne voulait pas de mouvement identitaire dans la manifestation. Donc, les forces de l'ordre étaient au courant. Et en fait, elles ont été tenues à distance par notamment la jeune garde des mouvements Antifa et séparées par la police, mais qui leur a permis, en fait, de manifester. Et ça, c'est bon, pas nouveau, puisqu'effectivement, il y a des manifs d'extrême droite, comme tu l'as dit, Milo, qui sont autorisés dans les rues de Paris. Mais qu'elles aient un cortège, vraiment, dans notre journée, c'est nouveau et c'est intolérable.
Merci à vous deux pour votre réponse. Maintenant, j'aimerais un peu plus comprendre en profondeur par rapport à votre sensibilité de vos collectifs. Qu'est-ce qu'on entend quand on parle de violence de genre? Et quel type de violence ça peut inclure exactement? Milo?
Ok. Je pense que ce qu'on entend par violence de genre, c'est les violences qui sont spécifiques aux femmes. Mais je pense que c'est faut élargir aux femmes et minorités de genre. Après, j'aime pas trop le mot minorité de genre parce que techniquement, les femmes sont une minorité de genre. Mais en gros, les femmes, les personnes LGBTI, notamment les personnes trans, je pense que c'est ça que ça signifie violence de genre, et c'est toutes les violences spécifiques. Donc, quand on entend violence politique, ça va être les violences sexuelles, les violences sexistes, donc le harcèlement sexuel, enfin, ça c'est une violence sexuelle, mais harcèlement sexuel, insultes sexistes, etc., toutes les micro-agressions sexistes. Voilà, enfin, je sais pas si c'est assez complet, mais...
Non, non, mais si, tout à fait. C'est l'idée de dire violence de genre, c'est pour ouvrir à tous les genres, en fait. Effectivement, en minorité, enfin, les minorités de genre et pas uniquement les femmes. C'est très politique, c'est justement pour sortir un peu de ce féminisme mainstream blanc bourgeois et inclure tout un tas de personnes qui sont au croisement d'oppression. Qui est quelque chose qui, pour le coup, si on a l'impression qu'il y a une avancée un peu médiatique, sociétale, etc., sur le féminisme, l'angle du croisement d'oppression est complètement mort. Enfin, pour le coup, c'est quelque chose qui est très oublié. Donc, je pense qu'on a nos organisations, elles sont raccord là-dessus, elles ont à cœur, voilà, de profiter aussi de l'aura, enfin, là, peut-être que je parle pour nous toutes, mais de l'aura médiatique qu'on peut avoir pour mettre en avant des collectifs dont on parle moins et de problématiques dont on parle moins, notamment dans les médias. Et du coup, effectivement, comme disait Milo, il y a aussi des violences. Tu parlais des manifs de retraite, etc. Il y a aussi toutes les violences sociales, en fait. Toutes les violences sociales pour les personnes précarisées, notamment les femmes précarisées. Voilà, c'est vraiment cette idée de croisement d'oppression qui est inclus dans cette politisation du mot violence de genre qui va plus loin que les simples violences sexistes et sexuelles.
Pourquoi, selon vous, les violences restent présentes dans le quotidien?
Ah, c'est vaste question. Parce que déjà, elles sont trop ancrées, je pense. Et il y a tout un truc de déconstruction. Enfin, en fait, nous, à l'AG Féministe, on a à cœur ça. C'est un peu l'anticarcéralisme. Donc, on n'est pas quelque chose d'officiel ou quoi, mais c'est qu'on essaye, on revendique pas des mesures sécuritaires. Déjà, parce qu'on trouve que trop sécuritaire, c'est un pas vers le fascisme. Et parce qu'on est contre ça de manière générale. Et en ce moment, j'ai l'impression que les politiques françaises, mais même mondiales, c'est plutôt dans la punition des violences sexuelles sexistes et pas la prévention et pas le avant de comment est-ce que on distingue l'esprit d'un garçon et d'une fille, en fait. Enfin, c'est tout un truc d'une éducation genrée qui est qu'on apprend aux filles à avoir peur, aux garçons à être dominants, etc. C'est des trucs où même si les parents essayent d'avoir une éducation plus ou moins neutre, en fait, il y a toujours, on n'échappe pas au contexte social, quoi. Donc on n'échappe pas à l'école, à ce qui se passe à l'école, etc. On n'échappe pas à tous les autres contextes, même la famille, en fait, la famille plus large, etc. Et du coup, il y a tout un truc de repenser. Enfin, c'est un gros travail, mais c'est pour ça que nous, on insiste aussi sur le fait d'avoir des structures. Enfin, par exemple, le planning familial, il fait un travail énorme là-dessus. Et c'est important de soutenir le planning familial et les structures de ce genre-là qui, en fait, c'est pas seulement de l'accompagnement de victimes, mais c'est aussi de l'accompagnement avant, enfin, avec de l'éducation sexuelle. Enfin, c'est pour ça que c'est si important, l'éducation sexuelle, à tous les âges. Mais pas que, quoi. Enfin, tous les trucs de... Enfin, nous, par exemple, on défend aussi la protection des services publics pour tout ça. Enfin, il y a toute une question de, par exemple, comment avorter s'il n'y a plus de maternité pour avorter. Enfin, on ne peut pas avoir d'avortement libre si on détruit les hôpitaux. Mais même outre ça, en fait, sans les hôpitaux, il n'y a pas tout un truc, même sans les écoles, comment est-ce que les enfants, ils apprennent à se construire, etc., à être des personnes meilleures. Enfin, voilà.
Marie ?
Oui, c'est lié en fait à la structure de la société qui est complètement patriarcale et même à la structure du capitalisme qui est patriarcale aussi. Et donc tout est imbriqué en fait pour maintenir ces relations de pouvoir et donc de relations de pouvoir et de domination sur la femme et les minorités de genre. Je suis complètement d'accord avec ce que dit Milo sur le besoin de changer en profondeur, en fait, les mentalités, et ça avec des mesures d'éducation. Et du coup, ça me permet de rappeler que c'est pas du tout ce que fait Michel Barnier. Parce que c'est très révélateur dans son discours. Il a pas arrêté de parler de victimes, de victimes, de victimes, et il a jamais prononcé les mots d'agresseur, de violeur, d'auteur de violence. Et en fait, il va vraiment falloir commencer à prendre conscience que c'est un problème extrêmement massif, que ça concerne tous les hommes, toutes les femmes, et que c'est toute la société qui doit changer pour qu'on lutte contre les violences. C'est pas uniquement nous, féministes, qui doivent prendre conscience de ça et de trois mesurettes comme elles ont été annoncées hier qui vont changer les choses. En fait, il faut vraiment un vrai changement de mentalité, de paradigme. Et du coup, ça passe par de la prévention via de l'éducation et de la formation de professionnels aussi.
Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
Quels sont les progrès dans la reconnaissance des droits des femmes que vous avez identifiés dernièrement ?
Vas-y, parce que là, je réfléchis.
Non, je pense que depuis MeToo, etc., il y a ce qu'ils appellent la libéralisation de la parole. Je pense qu'effectivement, il y a des choses qui ont changé dans, je parlais de l'enquête, dans le traitement médiatique, dans certains comportements qui sont plus acceptables, etc., etc., etc. Après, ça, c'est un peu le visuel, on va dire, enfin, ce qui est apparent. Je pense que les violences, elles baissent pas. voilà, les féminicides, le nombre de féminicides, nous toutes fait le décompte avec d'autres organisations, ils baissent pas. Voilà, depuis au moins le début du premier mandat d'Emmanuel Macron, les chiffres ils sont constants. Sur les violences conjugales, c'est la même chose. Sur les violences sexuelles, c'est la même chose. Sur l'inceste, c'est la même chose. Parce qu'il n'y a pas cette volonté politique de vraiment s'attaquer au problème avec toutes ses racines et de manière structurelle, en fait. Donc, tant qu'on ne fera pas ça, encore une fois, on peut faire présenter des mesurettes et rembourser les kits pour détecter la soumission chimique, mais ce n'est pas ça qui va régler le problème, en fait. Et donc, c'est pas suffisant. Que les femmes parlent, ça ne les libère pas, en fait. Et ça ne règle pas le problème. Il faut les écouter et il faut prévenir les violences et ensuite s'occuper d'elles aussi, les accompagner quand elles sont victimes. Mais pas juste se résumer à parler des victimes, comme Michel Barnier l'a fait hier. Il faut aussi s'occuper des agresseurs, empêcher qu'il y ait des agresseurs, des violeurs, des auteurs de violences. C'est hyper important.
Radio Campus.